En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.
L'Évangile nous propose le deuxième acte de la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth. Dimanche dernier, nous avons entendu Jésus lire le livre d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. » Et il semblait que cette parole que Jésus s'attribuait en disant « Aujourd'hui, c'est cette parole qui s'accomplit » rencontrait un écho formidable, un succès inattendu. Les gens de Nazareth ont entendu parler de Jésus. Voilà ce jeune rabbi qui, dont la renommée se répand dans la région. Et lui, c'est un enfant du pays, alors on est fier d'une certaine façon qu'il vienne chez nous et que ce soit l'un de nous qui soit ainsi reconnu ailleurs. Et donc finalement, pour les gens, ils attendent que Jésus fasse ce qu'il a fait ailleurs, à Nazareth, qu'il puisse accomplir des guérisons, qu'il puisse faire des miracles. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. La foule veut toujours enfermer Jésus dans une catégorie. Elle veut faire de lui un faiseur de miracles. On attend qu'il en accomplisse et qu'il résolve ainsi les problèmes des gens. Jésus serait la solution à nos difficultés ou à nos malheurs. Que Jésus réponde à nos attentes, et alors tout ira bien. Mais évidemment, ce n'est pas comme cela que les choses se passent. Vous remarquerez, et c'est une constante, c'est vrai, dans bien d'autres occasions, la versatilité de la foule, des gens qui sont là, qui écoutent Jésus. Quand Jésus leur dit « Aujourd'hui s'accomplit le témoignage de l'Écriture », alors les gens rendent témoignage. Et puis, de cette reconnaissance, ils passent assez vite à l'interrogation. Ils s'étonnent des paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Et puis vient le doute. N'est-il pas le fils de Joseph, le fils du charpentier? On le connaît, comment est-ce qu'il peut parler aussi bien? C'est pas possible. Et puis, à la fin de son discours, voilà que les gens sont furieux. Ils veulent le tuer, ils veulent s'en débarrasser, ils le poussent dehors pour le précipiter du haut d'un escarpeau. On retrouvera plus tard cette même versatilité de la foule lors de la passion de Jésus. Jésus acclamé lorsqu'il rentre à Jérusalem, Hosanna au fils de David, et la même foule, en tout cas une foule semblable, qui, quelques jours après, viendra demander à Pilate, « Mets-le à mort, il mérite la mort. » Revenons à Nazareth. Quelle est l'attitude de Jésus devant cette foule qui attend des choses, mais qui ne correspondent pas à ce qu'il veut leur donner? D'une certaine façon, on pourrait dire que Jésus semble mettre un peu d'huile sur le feu. Il ne veut pas se laisser enfermer dans l'attente des gens. Alors il prend les devants et il dit, il cite le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et puis il souligne qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Comme s'il y avait une petite part de provocation dans ça, prise de parole. Et les deux exemples qu'il cite ne sont pas là pour arranger les choses. Il cite la veuve de Sarepta, à laquelle Élie a été envoyée et qui lui a donné à manger, elle qui était une païenne au temps d'Élie. Et puis il cite Naaman le Syrien, lui aussi un étranger, au moment du prophète Élisée. Autrement dit, l'action de Dieu ne se réalise pas seulement dans le peuple élu ou auprès des siens, mais il y a déjà cette annonce d'un salut pour tous les peuples. Comme vous l'avez entendu aussi dans la première lecture à propos de Jérémie, dont on dit qu'il sera le prophète des nations. Jésus donc refuse de se laisser enfermer dans ce rôle de faiseur de miracles. La grâce disparaît au-delà de la séduction du paraître, de l'apparence. Et Jésus manifeste sa liberté, sa grande liberté, sa profonde liberté, sa liberté intérieure, quoi qu'il en coûte. Il n'est pas prêt à brader le sens de sa mission. Il ne veut pas se laisser enfermer dans une image. Et il redonne le sens de cette mission. Il s'adresse au peuple d'Israël, bien sûr, mais à travers lui, à tous les hommes, au-delà du peuple choisi. Il manifeste l'universalité du salut, de l'amour de Dieu. Jésus, qui est un juif fervent, affirme dans la manière de réaliser son ministère que le dessein de Dieu est plus large que les besoins des gens de son village. Encore une fois, ça n'est pas complètement nouveau. Et souvent, le peuple n'a pas entendu, n'a pas voulu entendre ce que Dieu disait par la voix des prophètes comme Jérémie. Je fais de toi un prophète pour les nations. Liberté intérieure donc de Jésus qui va son chemin. Il ne cherche pas à plaire. Il dit et il fait ce qu'il a à dire et à faire. Il accepte profondément la mission reçue du Père. Il est venu pour sauver tous les hommes. Chacun est unique aux yeux de Dieu. Chacun compte et admire. Chacun est aimé par Dieu. Les gens de Nazareth n'ont ce jour-là sans doute pas le cœur assez ouvert pour se laisser bousculer, interpeller, au-delà de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, de bonne foi, de ce qu'ils espèrent. Ils sont incapables de mettre leur confiance en Jésus, au-delà de l'apparence, au-delà des catégories, au-delà des cases dans lesquelles ils veulent l'enfermer. Ils n'acceptent pas d'être dérangés dans leur relation avec Jésus. Jésus, c'est le fils du charpentier. Il a un pouvoir qui lui vient de Dieu, alors qu'il l'accomplit chez nous et rien que chez nous. Pour nous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet épisode? Peut-être deux choses. La première, c'est de nous interroger d'abord sur notre propre relation au Christ, à Dieu, à l'Église. Mettre sa foi en quelqu'un, en Jésus en l'occurrence, c'est aller plus loin que l'apparence. Ce n'est pas seulement chercher à renforcer nos opinions, nos manières de penser, de vivre. C'est accepter nous aussi d'être quelque peu dérangés par la parole de Jésus, dans notre relation avec le Christ, dans l'écoute, la méditation de la parole. La foi, ce n'est pas une idéologie qu'il s'agirait d'embrasser, de défendre coûte que coûte. La foi, c'est toujours un chemin, une relation, une écoute de ce que le Christ veut nous dire dans notre vie et dans notre vie telle qu'elle, aujourd'hui, dans les questions que nous nous posons, dans la situation qui est la nôtre, dans le monde dans lequel nous vivons. Comment notre relation à Jésus nous transforme, nous fait grandir, nous rend attentifs aux uns et aux autres, à leurs besoins et à leurs attentes. Comment il nous aide à comprendre notre monde et à y jouer un rôle, notre société qui semble si désemparée, divisée, enfermée dans l'individualisme, le matérialisme, le consumérisme, l'isolement, la peur, mais qui est aussi confusément en recherche de sens, en attente d'amour, de partage, de fraternité, d'espérance. Jésus ne peut être une simple béquille à nos croyances, à nos opinions, mais celui qui nous invite toujours à la recherche de la vérité, à la transformation de nous-mêmes, à nous ajuster davantage à ce qu'il veut pour nous, à ce qu'il peut nous demander. Deuxième remarque, à partir de cet épisode, nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Finalement, la prédication de Jésus à Nazareth, c'est un échec. Il est obligé de partir, il n'est pas reconnu, et les gens veulent le mettre à mort. Cet échec, il le connaîtra plus encore au moment de la Passion, lorsque lui qui vient annoncer l'amour du Père pour tous les hommes va être condamné comme le dernier des criminels. Jésus n'est pas compris et pas reçu. Alors bien sûr, nous n'avons pas, nous, à cultiver la culture de l'échec, mais nous n'avons pas non plus à nous étonner si nous ne sommes pas toujours compris et acclamés. Autrement dit, nous savons que aujourd'hui, mais sans doute est-ce vrai de toutes les époques, de manière différente, il n'est pas si facile que cela d'être chrétien, de se dire chrétien, de vouloir vivre en chrétien. Peut-être est-ce spécialement vrai aujourd'hui, où la foi est comme renvoyée à la seule sphère privée, et puis quelque chose qui est souvent tabou, voire raillé, moqué, où les chrétiens sont mis devant leur propre faiblesse, leurs propres contradictions, leurs propres péchés. Pensez au drame des abus sexuels. Et du coup, nous avons souvent le sentiment d'être incompris et pas toujours acceptés. porteurs de valeurs qui ne sont pas celles de beaucoup dans la société, ou en tout cas peut-être pas celles du plus grand nombre. Devant cette situation, nous n'avons pas forcément à nous en étonner, mais aussi à nous apprendre à nous situer comme le Christ, à sa suite, avec persévérance, avec patience, mais aussi avec sa liberté intérieure et sa détermination. Au-delà des candidats, au-delà des opinions dominantes, Jésus manifeste son amour envers tous et manifeste ainsi la poursuite de sa mission, la persévérance. Nous aussi, nous sommes invités à témoigner de cette charité du Christ. Non pas à dire que rien n'a d'importance, que tout se vaut, que chacun suit son chemin, mais manifester notre amour concrètement, y compris auprès de ceux qui ne pensent pas comme nous, voire ceux qui peuvent être considérés aussi comme nos ennemis. Saint Paul, dans cet admirable hymne à la charité que nous avons entendu dans la deuxième lecture, nous redit cela. Il redit cette place centrale de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je ne suis qu'une cymbale qui résonne. Alors on peut dire qu'il exagère parce qu'il dit « si j'avais la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien ». Ce n'est pas rien d'avoir la foi à transporter les montagnes. Mais en même temps, il nous dit que sans l'amour, rien de ce que nous vivons n'a de sens. Et puis cet amour est pour lui quelque chose de très concret. Il passe par des attitudes, des comportements. L'amour prend patience, ne juge pas, ne condamne pas. L'amour est pour Paul le fruit de cette rencontre qu'il a faite sur la route de Damas et qui a changé, bouleversé, renversé toute sa vie. Et il ajoute ceci qui peut-être nous éclairer, nous, dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Notre connaissance est partielle, connaissance de Dieu, du monde, du sens de la vie. Mais ce qui demeure aujourd'hui, c'est, dit-il, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Alors que cette charité du Christ nous fasse vivre, qu'elle nous habite, qu'elle nous donne la vraie liberté des enfants de Dieu, de ceux qui avancent sur leur chemin avec confiance. Amen.